Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Éco-Mouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à la transition écologique, sociale et solidaire. Toutes les semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui nous guident vers un monde meilleur. C'est parti, bonne écoute!
Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Mathilde et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode autour du sujet des insectes. Alors, entre des débats politiques autour de l'utilisation d'insecticides comme les néonicotinoïdes et la création de nouvelles formes d'insecticides comme par exemple des pesticides à ARN intermittent, se débarrasser des insectes, c'est toujours autant une question d'actualité. Et pourtant, de très nombreuses études nous alertent depuis plusieurs années maintenant sur l'extinction rapide et préoccupante de cette faune, dont l'importance est toutefois incontestable. Pour approfondir ce sujet, j'ai justement le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Nicolas Moulin, entomologiste indépendant. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien ?
Très bien, il fait beau, il fait même d'ailleurs potentiellement trop beau.
Ah.
Et ça fait déjà 15 jours qu'il ne pleut plus en Normandie et il ne pleut pas les 10 prochains jours. Donc, ça, c'est reparti.
Ouais, 3 semaines de sécheresse, ça y est, le début.
Ouais. Alors qu'on est en Normandie.
En plus, c'est vrai. Alors Nicolas, j'ai rapidement dit que tu étais entomologiste indépendant, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier et tes missions, s'il te plaît ?
Oui, alors... effectivement, je suis entomologiste indépendant, formé en autodidacte. Grâce à moi-même, les stages que j'ai réalisés et les structures qui ont bien voulu m'accueillir. Pendant mon cursus universitaire très standard, jusqu'à Bac plus 5. J'ai toujours été au contact de la nature et des insectes. Et il fallait que je trouve le moyen de devenir entomologiste. Et en fait, un poste au Muséum national d'histoire naturelle, c'est compliqué. Voire maintenant impossible, enchaîner des petits boulots dans des bureaux d'études ou des conservatoires d'espaces naturels, ça ne me convenait pas. Je voulais avoir une partie sédentaire et donc je me suis mis à mon compte il y a 17 ans.
D'accord. Et donc ça va, tout va bien. Le métier te plaît toujours.
C'est un peu stressant d'être à son compte, il faut l'avouer. Il y a des fois, je rêve d'une petite sédentarité. Mais, à contrario, alors voilà, le problème, c'est que voilà, les deux paniers de la balance sont pleins. Et donc, même si je pourrais apprécier une certaine sédentarité, une certaine sécurité de l'emploi, j'aime beaucoup aussi faire mon boulot quand je veux et partir en mission quand je veux, parce que je vais beaucoup sous les tropiques. Et si j'étais fonctionnaire ou salarié de quelque part, j'aurais beaucoup moins l'occasion de le faire.
OK. Alors, en introduction, j'ai très rapidement parlé des nombreuses études qui ont été faites sur le sujet des insectes, qui mettent notamment leur importance en jeu, en avant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement les insectes et leur importance dans l'écosystème et la biodiversité, pour introduire un peu le sujet ?
Oui, oui. Ah ben, alors, en fait, les insectes sont très importants. Là, les articles sur le déclin des insectes tombent semaine après semaine. Je ne sais pas si les gens arrivent à tous les lire, mais s'il y a quelqu'un qui passe à côté, c'est vraiment il est non lecteur ou ignorant, ou alors il fait la politique de l'autruche. Mais voilà, donc les insectes sont très très importants. La plus grande fonctionnalité qui nous lie à eux, c'est leur pollinisation. Les insectes pollinisent les fleurs, les plantes à fleurs, et du coup, les fleurs produisent des fruits. Et donc, alors, pas toutes les fleurs, par exemple, les graminées, les herbes, font des fleurs, mais c'est le vent qui les pollinise. Donc, je n'utiliserai pas de nom technique qui serait difficile à digérer. Mais voilà. Et par contre, un pommier, un cerisier, des fraisiers, ce sont les insectes qui pollinisent. S'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de fraises. Et c'est un peu embêtant, parce que c'est bon. Voilà. Et quand je dis insectes pollinisateurs, il n'y a pas que l'abeille domestique. Parce que c'est pareil, c'est un raccourci qu'on fait. On dit non, mais oui, mais on va protéger les abeilles domestiques. En plus, elles nous font du lait, donc c'est du lait pardon, du miel. Mais voilà, elles sont sympas. Mais non, en fait, il y a plein d'autres. Il y a des scarabées, il y a des mouches, il y a des papillons, il y a des. Bon, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, ceux-là, on les ignore. Et c'est eux qui font la plupart du boulot, à la différence de Apis mellifera, l'abeille de l'été.
Ok, donc l'importance, en résumé, c'est ça, c'est un grand
La
rôle.
pollinisation. La pollinisation, c'est le plus grand. Mais ils sont aussi un peu en bas d'échelle. Et donc, ce sont aussi les proies de pas mal d'animaux. C'est les proies d'araignées, d'oiseaux comme les hirondelles, les martinets, tous les oiseaux d'ailleurs insectivores. Ce sont les proies de reptiles comme des lézards, des grenouilles ou de poissons, parce qu'il y en a certains qui ont leurs larves dans l'eau. Et donc, les larves d'insectes dans l'eau bah, alimentent soit d'autres insectes qui sont prédateurs, soit des poissons, soit, voilà, soit d'autres choses. Donc, non, non, ils sont très, très, très importants dans la chaîne de la vie. Ils sont très importants.
Oui, donc c'est oui, c'est ça, comme tu dis, c'est un équilibre. Ils ont un rôle de pollinisation, mais en même temps, ils sont eux mangés par d'autres animaux qui en ont besoin pour survivre. Donc quasiment tout est lié à la survie des insectes et à leur diversité.
Et exactement, exactement. Et en plus, ils vont nous survivre. C'est-à-dire que si on continue d'être aussi désagréable avec l'environnement et la biodiversité, nous, on va y passer. Mais eux, ils vont survivre.
Ok.
Donc, je pense qu'il vaut mieux les respecter et les préserver.
Ouais. Et donc aujourd'hui, les études montrent cette importance, cette corrélation, les liens qui existent entre toutes les espèces animales et végétales et les insectes, mais il y a aussi des études qui montrent que les insectes disparaissent. Il y a un déclin. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus pour qu'on comprenne, pardon, l'ampleur du problème?
Ben, l'ampleur du déclin, c'est il y a un test hyper simple que tout le monde observe, sauf si il ne pratique que des mobilités douces. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que les mobilités douces, c'est se déplacer à pied, à vélo, en roller. Théoriquement, on ne peut pas trop faire l'expérience, sauf si on voyage la bouche ouverte. Par contre, si on voyage avec une voiture et qu'on fait Lille-Marseille, et moi, j'ai fait Versailles, Grasse pendant des années quand j'étais petit avec mes parents. Et ben, le Renault Espace arrive en bas, il était couvert d'impacts d'insectes. Couvert. Et donc, ça, c'était il y a 30 ans. Maintenant, alors, je fais beaucoup moins ce trajet-là, il faut l'avouer, par respect pour l'environnement. Je le fais plus en train. Et donc, je ne vais pas avoir la calandre de la locomotive. Mais ceux qui le font encore en voiture, remarque qu'ils ont quasiment plus à laver leur voiture en arrivant. Donc ça, c'est un des tests qui montre que les insectes en France métropolitaine eh ben, régressent à fond la caisse. C'est-à-dire qu'on n'en contacte plus les gens. Et là, actuellement, voilà, je fais beaucoup de festivals et de rencontres pour autre chose, pour un livre. Et les gens me demandent directement ça. Ah ben moi, souvent des personnes un peu plus âgées que moi, ah mais je vois plus d'insectes, ah mais monsieur, effectivement, il n'y a plus beaucoup de papillons, on n'en voit plus, ah oh, je vois plus ça, je vois plus ci. Mais oui. Le déclin, il se voit, mais au pas de sa porte, hein, il suffit de franchir le palier et on voit qu'il y a beaucoup moins d'insectes qu'avant.
Et est-ce que, ça c'est empiriquement, on s'en rend compte, est-ce qu'il y a des chiffres scientifiques qui ont réussi à mesurer un petit peu l'étendue, l'ampleur du déclin, alors que ce soit au niveau de la France ou au niveau mondial?
Ben là, actuellement, un des chiffres, c'est sur les 10 dernières années, en France métro, dans le paysage, non, pas dans le France métro, en Europe, dans le paysage agro, hein, donc culture, eh bien, il y a 70 à 80% des insectes qui ont disparu. Et
Donc,
ça, c'est que les insectes, hein. C'est-à-dire que les oiseaux communs, par exemple, ils plongent tout autant.
c'est ce que j'allais te demander. Aujourd'hui, on mesure directement une vraie diminution de la population d'insectes, mais est-ce qu'on mesure également les différentes conséquences dont tu as pu parler tout à l'heure, de cette disparition des insectes? Est-ce qu'on a commencé un petit peu la chaîne de cascade?
Oui, en fait, les facteurs qui qui détruisent les insectes, qui les font disparaître. Il y en a plusieurs, hein, l'anthropisation, l'usage de produits chimiques de façon déraisonnée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a pas mal. L'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Tout ça, en fait, ça impacte les insectes, mais ça impacte en fait aussi d'autres groupes taxonomiques. Et donc, les destructions de haies. Et donc, les oiseaux y passent. Les amphibiens reptiles avec des comblements de mares ou de fossés, ils y passent aussi. La pollution des eaux douces, ils y passent aussi. Donc, il y a aussi les poissons. En fait, non, mais il y a beaucoup, beaucoup. Et alors, c'est surtout, on va dire, les animaux ou les plantes qui ont une biologie exigeante. C'est-à-dire que ceux qui sont spécifiques comme ça, exigeants, ils souffrent tout de suite. Dès que leur habitat ou leur mode de vie change, c'est eux qui payent en premier. Par contre, ceux qui sont généralistes arrivent là à survivre encore.
Ouais, à se retourner un petit peu avec...
Voilà, c'est par exemple un papillon de jour où la chenille est polyphage, c'est-à-dire qu'elle mange plusieurs plantes. Bah, si une de ces plantes elle disparaît dans un biotope, eh ben, le papillon se rabat sur une autre plante.
Ouais.
Mais il y en a d'autres qui sont complètement attachés à une seule plante hôte. Et du coup, si la plante hôte elle disparaît par retournement du sol ou par pollution ou par tout d'un coup des fauches, trop de fauches ou des tombes de pelouse, eh ben, le papillon il disparaît.
Ouais, donc là, si je résume un petit peu ce que tu as dit pour voir si j'ai bien compris, les causes de diminution des insectes n'impactent pas que les insectes. Donc directement, on voit en effet qu'on a une pollution des eaux, on a une disparition directe par les mêmes causes que les insectes de plein d'autres espèces. Mais est-ce qu'on arrive déjà aussi à mesurer, comme tu disais tout à l'heure, que les insectes étaient utiles pour la pollinisation, étaient utiles pour l'équilibre avec d'autres espèces qui les mangeaient? Est-ce qu'on arrive aussi à mesurer directement les conséquences de certains insectes qui disparaissent et qui entraînent la disparition directement d'autres animaux?
Ben, je pense que, par exemple, dans les oiseaux, communs, ceux qui sont insectivores, leur population a régressé.
Okay.
Moi, par exemple, je vis à la campagne, heureusement. Enfin, je dis à la campagne, mais en fait, tout devrait être vert, tout devrait être... devrait pas avoir autant de distinctions. Mais j'ai des hirondelles rustiques. Eh ben, j'ai plus qu'un couple. Avant, j'avais plus de couples que ça. Eh ben, alors, c'est des migratrices, donc peut-être qu'elles ont eu un accident sur la route. Peut-être qu'elles ont rencontré un chat. Mais il y a aussi le fait qu'elles peuvent voler toute la journée en continu et pas arriver à s'alimenter assez pour avoir des couvées viables.
Ouais. Et donc, tu parlais rapidement, tu as énuméré quelques causes. Pardon. Est-ce qu'on peut juste revenir là-dessus pour bien comprendre d'où vient le problème? On a bien compris où il était le problème, d'où il vient.
Ouais. Alors, les causes. Il y a la perte et la fragmentation des habitats naturels. Donc ça, c'est détruire des haies, et encore plus détruire des haies sans replanter ou détruire des haies en pleine période estivale. C'est-à-dire que entre fin mars et fin août. C'est-à-dire
que là, c'est un problème, ça.
Dans les nichées d'oiseaux.
Ok, c'est surtout un problème. Pardon, c'est un problème parce qu'on détruit leur écosystème.
On détruit un micro-habitat qui est hyper important, alors pas que pour des oiseaux qui nichent. C'est un refuge pour des micro-mammifères, hérissons, mulots et d'autres animaux. C'est un refuge pour des insectes parce qu'il y a des plantes hôtes qui vont être uniquement dans un système de haies et pas en forêt ou pas en plein milieu d'une prairie, donc qui ont besoin de l'intermédiaire. Parce que, en fait, par exemple, une haie, c'est une interface de lisière. Donc, il y a des insectes qui s'en servent comme corridor, comme autoroute, en longeant une haie. Ils sont en milieu ouvert, mais ils longent un milieu fermé, et donc ils peuvent se diriger avec ça. Donc, il y a ça, la perte d'habitat, par exemple, une prairie de fauches, c'est bien une prairie de fauches. Ben, elles peuvent être retournées Et puis là, on a du maïs. Ah, pourquoi on a du maïs? Et ce n'est pas le maïs qu'on mange pour faire des pop-corns. Hein. C'est du maïs parce qu'il faut faire de l'ensilage et parce qu'il faut nourrir des bêtes qui n'ont pas assez à manger. Et parce que... Donc, y a ça. Il y a la pollution. Donc, j'en parlais. Hein, la pollution, c'est tout. Hein, c'est pollution des eaux. C'est pollution en utilisant abusivement de produits chimiques. Soit un type engrais, soit type insecticide, enfin tous les biocides et tout. Le changement climatique, c'est bientôt irréversible. Mais oui, le changement climatique, c'est-à-dire que des biomes où en fait les insectes avaient besoin d'un hiver rigoureux pour vraiment marquer leur cycle de vie, parce que c'est comme ça en milieu tempéré. La faune et la flore ont parfois besoin d'un phénomène marquant dans leur cycle de vie. Ils ne l'ont plus. Donc, tous les hivers sont doux. Alors, ça favorise le quatrième point, qui est les espèces exotiques envahissantes, qui viennent de contrées qui sont potentiellement aussi tempérées, mais qui ont des saisons moins tranchées que nous, par exemple. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal là, actuellement, qui arrivent beaucoup de l'Est. Mais bon, frelon asiatique, coccinelle asiatique, alors c'est un peu sectaire, mais ouais, renouée du Japon, et il y en a plein d'autres, hein, Jussi, la liste est pas mal, est longue. Alors la liste est longue, et en même temps, je digresse très rapidement, mais la liste n'est pas si longue par rapport à la biodiversité. Donc effectivement, les espèces exotiques envahissantes, c'est un problème. Mais actuellement, dans la masse, ce n'est qu'un très faible pourcentage. Ça sera un gros problème quand la biodiversité, on va dire, autochtone, indigène, disparaîtra et que là, on aura une uniformisation de la faune et de la flore qui nous environne.
Ok. En gros, tu as quasiment listé dans les quatre menaces, tu les as quasiment listées dans l'ordre en fait, d'importance, la perte et la fragmentation des habitats. Après, tu as parlé de la pollution, changement climatique quand même, peut-être les deux...
De toute façon, la fragmentation des habitats et la perte d'habitat, c'est lié à l'anthropisation. Il y a personne d'autre que nous, comme animal, sur la Terre, qui détruit des habitats pour améliorer son environnement, ou alors c'est pas à des échelles aussi dantesques que les nôtres, qui entraîne le fait d'utiliser des produits parce qu'on a la dalle et qu'on est 8 milliards. Et qu'après, ça entraîne un changement climatique, production de CO2.
Oui, parce
que. Et après, effectivement, après, on arrive à faire le tour du monde à une espèce en 24 heures grâce à nos transports humains. Voilà. Donc, que ce soit marin ou aérien, les ballasts de bateaux font voyager des organismes en 24 heures, ils font le tour du monde. Pas mal. Voyage gratos. Non, mais c'est terrible. Je blague, mais.
Oui, bon. Mais tu le dis quand même, c'est bien. Tu le dis quand même. Donc, oui, les quatre menaces, quand même, que tu as évoquées, ce sont des menaces qui sont en effet de notre fait. Et ouais. En plus, qui sont les unes et les autres liées, comme tu dis, parce que perte et fragmentation d'habitat, c'est en effet en grande partie pour notre besoin, pour nos besoins. On le fait, comment on fait ça? En utilisant des produits chimiques, donc des pollutions, en utilisant des moyens de transport carbonés, donc changement climatique, et tout ça, ça entraîne des changements, et donc l'introduction d'espèces invasives. Donc tout est fortement lié. Mais comment on s'en sort? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui sont mises en place, et est-ce qu'il y a des solutions qui pourrait être mise en place?
Eh bien, c'est le grand sujet. Parce que, en fait, là, je parle sûrement à des convaincus et je ne parle pas à des personnes non convaincues.
On espère qu'il y en aura un petit peu.
Et on espère qu'il y en aura un petit peu. Et j'aurais fait ma part du colibri. Mais en fait, j'en ai entendu encore parler à tous les événements où j'étais là ces derniers jours. Et je parlais à des gens convaincus et qui râlaient. Mais le problème, en fait, c'est alors, ils râlaient soit du voisin, soit ils râlaient à une échelle au-dessus leur mère, soit ils râlaient à une échelle bien, 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 bien au-dessus, à la gouvernance. Mais le problème entre autres du français, mais je pense que ça marche aussi dans d'autres pays. Imaginons le gouvernement, là, demain, il dit « vous arrêtez de faire ça, vous arrêtez d'utiliser tel produit, vous arrêtez de consommer de la viande qui va de la belle, etc. » Mais vraiment avec des textes de loi. C'est-à-dire que si tu ne manges pas une vache qui a vécu à moins de 50 km de chez toi, tu n'as pas le droit de manger de viande. Ça, connaissant l'humeur française, ça ressemblerait à une dictature. Une dictature environnementale. Et ben, ça serait pas accepté. Donc, en fait, c'est hyper dur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une conscience personnelle qui est prise, mais de tout à chacun, quoi, quel que soit notre poste, quelle que soit notre fonction, quelle que soit notre importance, notre rôle, en fait, si chacun de soi-même, on ne le fait pas, si mon voisin, il n'arrête pas de pondre, si ma voisine n'arrête pas de faire 6 allers-retours dans le chemin pour faire le moindre déplacement en dessous de 2 km, bah, on ne peut rien faire.
Mais c'est intéressant ce que tu dis.
C'est ça.
C'est qu'en fait, on a souvent tendance à être dans ce fameux triangle de l'inaction où on rejette la faute sur les politiques sur les industries et les industries sur le citoyen. Mais ce que tu dis, toi, c'est que ça doit partir de l'humain, de l'individu, qui doit avoir sa conscience éveillée par ça et l'envie d'agir. Et pas attendre que ce soit une gouvernance politique ou une qui agisse, parce que ça ne passerait pas, selon toi.
Bah, c'est ça, un industriel, c'est l'heure que la demande. Un industriel, il fait en masse parce qu'on bouffe de cette manière en masse. Si on ne change pas notre comportement alimentaire, enfin, si on change notre comportement alimentaire, soyons positifs, et bah, on ruine l'industriel. Et l'industriel, il sera devant le mur. Bon, on ne le fait pas. On arrêterait de râler sur chaque projet de loi. Le gouvernement, il imposerait des trucs qui seraient bons pour l'environnement et on ferait OK. Et on refuse aussi. Alors, moi, voilà, je peux conseiller que de changer de comportement. Mais...
OK. Et bah, justement, j'allais te dire, je trouve que c'est la transition parfaite pour ma dernière question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais peut-être dire pour donner envie aux gens de s'intéresser un peu plus aux insectes ? Genre un peu une bande-annonce, tu vois, d'un super film pour donner envie d'y aller.
Non, mais je peux faire un teasing énorme. En plus, j'y gagnerai pas d'argent, je le dis tout de suite. Mais je vais faire de la pub. Mais par exemple, les gens, il faut s'intéresser à son environnement. Déjà, s'intéresser à son environnement. C'est-à-dire qu'on sort de chez soi, qu'on habite en appartement, en ville, en maison, à la campagne, avec 30 mètres carrés, avec pas de jardin, avec un jardin, avec 3 hectares. Peu importe, on met l'application INPN Espèce de Patrinat sur son smartphone. Et dès qu'on croise un insecte, une plante, un oiseau, un animal, et que les photos, alors on peut en mettre 3, elles ne soient pas trop floues, elles soient correctes, et ben on prend des photos et soit on sait ce que c'est et on suggère le nom. Par exemple, oh, ben c'est un rouge-gorge ou oh, c'est une pâquerette. Et derrière, eh bien, selon ce qu'on a pris en photo, on a des points. On a des points parce que c'est la première fois qu'on a vu un coquelicot dans la commune. Bah, c'est pas vrai, mais si on est dans une micro-commune, bah, potentiellement, on est peut-être le premier à avoir pointé, fait un point GPS d'un coquelicot. Et alors ça, c'est bien parce que derrière, il y a tout un contingent d'experts qui valident ces données. Et après, ces données, quand elles sont validées, elles améliorent l'inventaire national, en fait, de la faune et de la flore. Ça va sur l'INPN, l'inventaire national du patrimoine naturel, et ça sert à faire des cartes, et ça sert à faire des statistiques, et ça sert à estimer l'état des populations d'une espèce ou d'un groupe d'espèces ou d'un règne entier ou d'une classe entière, les oiseaux communs. Déjà, on aura apporté beaucoup. Est-ce qu'on ne participe pas à cette espèce de mouvement national d'amélioration de la connaissance et on ne protège que ce qu'on connaît. Et donc, comme on connaîtra mieux, eh ben, on arrivera à mieux protéger. S'il faut en passer par là, ce sera comme ça. Et alors après, bah, quand on a du terrain, et même si on n'a pas du terrain, par exemple, on peut faire des bombes de graines et tous les parterres qui ressemblent à rien dans sa commune, eh ben, on met des bombes de graines. Et puis, il y aura... une jachère fleurie, où il y aura des courges, où il y aura voilà, il pourrait y avoir des légumes alimentaires sur des terrains ou des pourtours d'arbres ou des terre-pleins qui ressemblent à rien, ou même un rond-point. Enfin, rien que ça peut être très, très drôle. Après, dans son jardin, on peut faire des nichoirs, on peut faire une mare, on peut arrêter de tailler en partie ça et on peut ne plus tondre ou tondre en faisant des chemins. On peut planter énormément d'aromates parce que ça sera bon pour beaucoup de monde. Il faut que le jardin, donc j'ai rencontré récemment Eric Lenoir, il parle de jardin punk. Il faut les laisser faire, quoi. Il faut les laisser aller. Oui, je vous invite
c'est
à
joli.
Rencontrer. Oui, il est incroyable.
Eric Lenoir, le jardin punk.
Okay. Voilà, Eric Lenoir, le jardin punk. Et ouais, c'est incroyable, en fait. C'est-à-dire qu'on laisse partir son insureau, on arrête de le tailler tout le temps. Le chèvrefeuille, il court sur la façade. Le lierre, il prend de la place. Bah ouais. Mais en fait, ils sont hyper importants. Et faire des jardins à la française, au carré, avec du buis, la pelouse avec le raie gras, c'est pas ouf. Et puis le buis, il se fait dégommer par un pirate de puits qui a pris un peu d'essor. Voilà, et ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour la biodiversité. Donc,
Ok, ouais. Donc plein de choses qu'on peut faire. Et puis connaître, sortir un peu de chez soi et être curieux. C'est vraiment le premier
Exactement.
Conseil que tu nous as donné.
Être curieux de l'insecte, de la fleur, de l'arbre, de l'oiseau, être curieux.
Et participer avec les sciences participatives
dont
tu as parlé.
Participer aux sciences participatives. Voilà, parce que j'ai cité cette application, parce que le smartphone, maintenant, il y en a un dans toutes les poches, dès 4 ans, horrible. Mais oui, il y a Viginature, il y a des événements qui sont liés à ça, où les gens peuvent se rassembler et faire un mouvement, participer aux fêtes de la nature. Voilà, mais voilà, c'est pareil, je parle à des convaincus. C'est-à-dire qu'un week-end où il y a une fête de la nature, il y en a qui iront faire des tours de karting, et il y en a qui iront à la fête de la nature.
Oui, mais je trouve ça intéressant que tu aies quand même souligné l'importance, alors à titre personnel, pour connaître, des sciences participatives et des applis, mais également l'importance, en fait, parfois on se dit, ça sert à rien ce qu'on fait si je rentre le nom de l'espèce que j'ai identifiée. Mais en fait, c'est utile pour apprendre à mieux connaître aussi, pour que les chercheurs puissent identifier, découvrir et continuer à approfondir. Donc,
exactement.
C'est chouette.
Et évaluer l'état des populations.
Ouais. Ok, merci beaucoup, Nicolas. On va s'arrêter là. Ça fait déjà un peu plus de 25 minutes.
Oui, je crois qu'on a dépassé.
Pardon. C'est pas grave. J'espère. Du coup, c'était très intéressant. Donc, on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait dire en 25 minutes. Tu nous auras donné plein de liens que je pourrais mettre en description de l'épisode pour justement celles et ceux qui veulent aller plus loin. Peut-être télécharger les applis dont tu nous as parlé, tout ça. Je mettrai toutes les infos. Et le jardin. Okay.
Et puis la biblio aussi, la lecture de personnes que j'ai citées.
Ouais, ça marche. Merci beaucoup, Nicolas.
De rien, avec plaisir, bonne journée.
Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère, comme à chaque fois, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura informé et qu'il vous aura inspiré et donné envie d'agir en faveur des insectes, entre autres. Et puis, si c'est le cas, et bien surtout, n'hésitez pas à nous le dire, à liker cet épisode et à le partager autour de vous justement pour le faire vivre et peut-être essayer de toucher des non-convaincus, comme le disait Nicolas. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram. Nous sommes à ton écoute. À très vite !